Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Bonjour à tous et bienvenue à cette première table ronde de la matinée dans le cadre des Journées nationales de l'innovation en santé, en direct de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, où nous avons délocalisé notre studio. Deux journées durant lesquelles la Wikiradio du CNRS, en partenariat avec Avisan, vous propose 8 débats que vous pourrez par ailleurs réécouter en les podcastant sur le site internet de notre radio, wikiradio.cnrs.fr. Une première table ronde donc intitulée « Perte d'autonomie, comment y remédier ?». Une question en effet de plus en plus prégnante alors qu'un million de personnes de plus de 60 ans sont aujourd'hui dépendantes, ce qui signifie qu'elles sont dans l'incapacité de réaliser sans aide extérieure les gestes de la vie quotidienne. Préparer à manger, se laver, s'habiller ou encore faire ses courses. Et l'on estime, vieillissement de la population oblige, que ce chiffre devrait atteindre 1,8 million en 2040. Alors si bien évidemment les pertes d'autonomie touchent prioritairement les personnes âgées, maladies, handicaps, accidents, elles concernent potentiellement tout le monde. C'est donc par conséquent une véritable question de santé publique. Comment y remédier? Comment la prévenir? Et ce grâce à l'innovation? Pour en discuter et en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Sommer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de biologie tissulaire et ingénierie thérapeutique et responsable scientifique du défi Auton. Également avec nous, Josina Degrave. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à la faculté des sciences du sport à l'université d'Aix-Marseille et chercheuse à l'Institut des sciences du mouvement Étienne-Jules Marais. Enfin, avec nous, Damien Brulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, et chercheur au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS. J'ajoute que Jean Bousquet, professeur de pneumologie et créateur du site de référence MACVIA contre les maladies chroniques pour un vieillissement actif en Languedoc-Roussillon, qui devait être avec nous pour cette table ronde, a eu un empêchement, ce dont il vous prie de l'excuser. Alors, comme je le disais en préambule, la question de la perte d'autonomie est désormais un enjeu sociétal majeur. Mais à y regarder de plus près, la prise de conscience est récente, 2005, avec la loi sur le handicap. C'est dans ce contexte que les structures de recherche, notamment le CNRS, ont commencé à se pencher sur cette problématique et voir ce que la recherche et l'innovation scientifique pouvaient concrètement apporter pour relever ce défi de la perte d'autonomie. Quel a été alors le constat, Pascal Sommer ?
Oui, bonjour. Quand on s'est intéressé à cette question d'autonomie, cette question d'autonomie est aussi reliée à la question du handicap. Hein. Le handicap, c'est à un moment donné, on veut avoir une fonction, on veut faire quelque chose et on n'y arrive pas. Il y a une situation, il y a un moment. Donc cette perte d'autonomie correspond à un blocage à un moment donné fonctionnel. Et donc ça peut toucher des cas particuliers, mais aussi toute une population, comme on en parlait, d'une population vieillissante. Mais c'est aussi à un moment donné, c'est le voyageur qui est dans un pays étranger, puis qui ne voit pas bien, qui ne comprend pas très bien la langue, tout ça. Donc les outils qu'on peut développer, les concepts qu'on peut développer pour ces problèmes d'autonomie sont des problèmes généraux et spécifiques. Alors en 2005, quand le gouvernement a proposé cette loi sur le handicap, la première chose qu'on fait quand on réfléchit à ce qu'on veut faire, c'est faire un bilan. Donc il a été demandé à toutes les organisations de recherche et de formation de France de faire un bilan sur ce qui était fait sur cette question d'autonomie, et j'ajoute toujours un de handicap. Et donc tous les instituts ont été mobilisés, les instituts de recherche ont été mobilisés, hein, dont le CNRS, mais aussi la recherche médicale, les recherches sur les applications informatiques et communication. Et donc nous avons écrit un rapport en 2009 qui était un rapport qui correspondait à un observatoire national sur la formation et la recherche et l'innovation sur le handicap. Et le bilan que nous avons fait au niveau du CNRS était contrasté. Nous nous étions mis ensemble avec plusieurs spécialistes de différents domaines, aussi bien dans les sciences humaines et sociales, en biologie, que dans les sciences de l'information et de la communication, les sciences de l'ingénieur, pour faire ce bilan. Et on a vu que nos chercheurs du CNRS et de tous leurs partenaires, finalement, faisaient beaucoup de recherches avec des développements, des recherches d'application, mais que la lisibilité, c'est-à-dire on n'avait pas une grande vision de ce qui se passait.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux qui pouvaient adresser cette question de la perte d'autonomie.
Beaucoup de chercheurs étaient intéressés par cela. Chercheurs, enseignants, chercheurs, je ne fais pas de différence entre les uns et les autres. Thésards, beaucoup de gens étaient intéressés par cette question d'autonomie. Simplement, il fallait peut-être un peu relier les choses. Donc c'est ce qu'il a, c'était finalement la première conclusion. Beaucoup de travaux, je pourrais dire à la louche, 80 laboratoires qui correspondaient à des actions un peu structurées, mais beaucoup de chercheurs indépendants, notamment en sciences humaines et sociales, étaient intéressés par ces questions, aussi bien sur des approches économie, de loi, de comportement, et puis de questions de biologie, d'aide à la personne spécifique. Donc le premier bilan, c'est que ça existe, que nos institutions de recherche en France sont intéressées, qu'il existe des sources de financement pour faire cette recherche, mais que c'est très dispersé et un petit peu pas relié, il n'y a pas une logique.
Donc il y avait un travail d'intégration à faire de ces différents travaux.
Tout à fait.
Et donc avec une visée très interdisciplinaire de la question.
Alors, ce qui est ressorti immédiatement, c'est qu'on travaille par domaine. C'est-à-dire, les gens qui font de la physique font de la physique. Les gens qui font du développement d'outils, par exemple des écrans tactiles, font ça, font des écrans tactiles. Et ceux qui travaillent sur l'économie et la relation directement avec les personnes sont aussi dans leur coin. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un problème d'intégration. Et le moyen de faire de l'intégration, c'est de mettre les différentes disciplines ensemble entre les questions qui viennent du comportement des gens, d'un côté, et puis les questions qui sont comment on va remplacer une fonction biologique ou comment on va rajouter de la domotique dans un appartement. Tout ceci, il faut le relier. Ceci, c'est par une approche interdisciplinaire.
Alors comment concrètement le CNRS et ses partenaires ont mis sur pied ce programme interdisciplinaire visant à adresser la question de la perte d'autonomie?
Alors le CNRS est divisé en 10 instituts avec à chaque fois des domaines et des particularités différentes, mais il existe une mission interdisciplinarité depuis très longtemps, hein, ça a toujours existé je pense au CNRS. Et c'est vrai qu'en 2000, je dirais c'était 2010 ou 2011, on a cette mission interdisciplinarité a été vivifiée. Et deux grands projets ont vu le jour à ce moment-là qui étaient reliés, en fait. Le premier, c'était cette perte d'autonomie qui touche tout le monde, qui, à un moment donné, va toucher tout le monde. Il suffit d'enlever les lunettes à 80% des gens et ils voient moins bien et ils perdent leur autonomie. Donc on fait de l'autonomie sans le savoir, hein. Voilà, d'un côté. Et puis de l'autre côté, à chaque fois qu'on va prendre des informations sur une personne, on aboutit à des données. Et ces données, ce qu'on appelle les grandes données, les big data, il faut pouvoir les compiler, les analyser. Ne serait-ce qu'une radio, qu'on va prendre à l'hôpital se résume d'abord et avant tout par des données, des chiffres, et il faut pouvoir les mesurer. Donc les deux premiers grands projets de la mission interdisciplinarité ont été sur cette question d'autonomie et sur cette question de données, les deux étant reliés, puisque actuellement tout le domaine de la santé est relié aux sciences numériques.
Et sur la question de la perte d'autonomie, vous n'avez pas attaqué évidemment l'ensemble des questions que l'on peut se poser, mais vous vous êtes concentré sur le mouvement et le contrôle sensorimoteur, je crois.
Oui, tout à fait. Alors, pour deux raisons. D'abord, dans le CNRS a une grande connaissance, une grande compétence reconnue en France dans le domaine des sciences cognitives. Il y a eu plusieurs grands programmes sur les sciences cognitives dans les années 90. Alors qu'est-ce qu'on entend par sciences cognitives, hein? C'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment on va contrôler notre comportement. Donc on est à la fois dans les sciences biologiques, dans les sciences humaines et sociales, et puis dans le suivi par les sciences physiques et les sciences de l'ingénieur, et les sciences de la communication. Donc on avait ce point-là, et il fallait bien commencer par quelque chose. Et c'est vrai que une des premières grandes difficultés qu'on a quand on perd de l'autonomie, c'est parce que on perd un sens, on devient aveugle, on devient sourd, et on se casse une jambe. Donc, il faut commencer par ça. Donc, d'une part, et d'autre part, en face, lorsque nous avons fait ce bilan, nous, à chaque fois que nous avions des chercheurs, les chercheurs travaillent avec des associations de patients, de malades, d'aidants, et donc il y a beaucoup d'associations. Et c'est aussi très 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 divisé des deux côtés. Donc il fallait commencer par ce duo entre des chercheurs sur des domaines particuliers sur les sens que nous connaissons bien au CNRS, sur lesquels nous avons des très bons travaux, et en face de qui nous avons des interlocuteurs reconnus, des aidants reconnus, avec qui nous pouvons discuter.
Alors vous avez évoqué les associations, ce qu'il est important aussi de mentionner, c'est que lorsque vous avez mis en place ce projet, vous vous êtes dit, il ne faut pas partir de ce qui sort des laboratoires, pousser une techno vers l'extérieur, mais il faut plutôt partir de la demande sociétale, faire un constat.
En réalité, on fait les deux. On fait les deux et on ne le fait pas bien. Donc ça, c'est un constat. Mais ça, c'est un constat pour toute la recherche et l'innovation. D'un côté, il y a effectivement les technologies qui sont développées par les idées des chercheurs, des innovateurs. Et de l'autre côté, il y a la demande sociétale qui est précise, qui est pointue, qui est souvent comment on va gérer une personne. Et évidemment, on n'arrive pas à faire une recherche pour chaque personne, chaque cas. Donc ces deux questions sont complémentaires. Simplement, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et c'était vraiment le but de cette mission interdisciplinarité, c'était de mettre des disciplines ensemble qui parlent un autre langage, qui ne parlent pas le même langage, et qui vont poser les questions du début et de la fin de l'innovation. Et ça aide énormément à réduire l'espace entre la recherche, l'innovation et le développement, et la mise sur le... On peut dire sur le marché, mais ce n'est pas que le marché. Ça peut être une formation, par exemple. Ça peut être de l'éducation aux enseignants, leur apprendre des choses. Par exemple, définir des procédures pour un kinésithérapeute qui va faire une rééducation d'une personne qui a chuté, ça, c'est très important. Et ce n'est pas un marché. C'est simplement une progression dans la formation. Et ça, c'est très important.
Alors, dans le cadre de ce projet sur l'autonomie, vous avez labellisé une trentaine de projets. Et parmi ceux-ci, le projet que vous portez, Josina De Graaf, le projet Réorgam, qui porte sur la mise au point d'une prothèse de bras basée sur l'activité musculaire associée au mouvement des membres fantômes.
En effet.
Alors, le point de départ de ce projet est un constat scientifique déroutant. Le bras absent des personnes amputées bouge pour de vrai. Là, il faut que vous nous expliquiez.
Oui. Bon, le membre fantôme est relativement bien connu, l'existence de membres fantômes chez les amputés. C'est connu depuis longtemps, d'ailleurs. Quand on regarde des peintures, il y a des siècles déjà, on voit des espèces de spectres de bras après amputation. Donc on sait très bien qu'on peut ressentir un membre qui n'est plus là. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Ce membre est bien connu... dans le domaine médical, évidemment, dans le domaine scientifique et dans la média, dans toute la population, par ces douleurs. Donc les douleurs du membre fantôme. D'ailleurs, quand on évoque le membre fantôme, chez qui que ce soit, c'est toujours « Ah, la douleur ». Vous travaillez sur la douleur. Non, pas du tout. Parce que le membre fantôme, c'est beaucoup plus que la douleur. Parfois, c'est même pas la douleur. C'est très souvent, d'ailleurs, même pas la douleur. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Les gens le sentent. Déjà, ils le sentent, le membre est là, ils le sentent par des petits picotements, des sensations de chaleur, de froid, ils sentent parfois des contractions musculaires involontaires, des espèces de sensations de crampes qui ne sont pas forcément douloureuses, mais ils peuvent très bien décrire leurs membres dans l'espace. Quand on leur dit où est votre main fantôme, ils pointent avec l'autre main à l'endroit où ils sentent. C'est assez intéressant parce que c'est pas forcément au même endroit où elle était avant, la main. Le bras est raccourci, parfois, pas toujours. Et du coup, la main, elle peut aller jusqu'à être attachée au membre résiduel. Ça les perturbe pas plus que ça, d'ailleurs. Parfois, ils sentent leur main et rien entre la main et le membre résiduel. Donc il y a une espèce d'espace vide. On peut y passer la main, d'ailleurs, quand on est chercheur. On passe la main, on dit « Alors, ça vous fait rien ?» Oh, absolument pas. Donc déjà, ces sensations-là sont beaucoup moins connues.
Et ce que vous avez découvert, c'est que cette sensation de la présence de ce membre fantôme n'est pas liée à la difficulté qu'ont ces patients à vivre leur amputation. Il est vraiment là.
Oui, il est vraiment là. Ouais. Il est vraiment là et on le sait. Enfin, disons que les arguments les plus forts, c'est quand même les arguments qui sont liés à la motricité, ce membre. Donc, une des sensations qu'ils ont, c'est de pouvoir bouger ce membre. Et les réponses que donnent souvent les médecins, la famille, souvent, très souvent, mais arrête de dire des bêtises, tu ne peux pas bouger un membre qui n'existe pas, c'est juste parce que tu n'acceptes pas la perte. Et alors qu'on sait depuis des années maintenant, par un groupe de recherche à Lyon, que quand un patient bouge son membre fantôme, ça donne lieu à des mêmes activités, des mêmes réseaux corticaux qui sont actifs que pendant un mouvement du membre intact.
Je veux dire, les réseaux neuronaux,
oui,
qui avant contrôlaient le mouvement du membre sont actifs de la même manière,
voilà,
dans ce qu'on appelle les mouvements du membre fantôme. Ça donne la même signature dans les appareils d'imagerie cérébrale.
Exactement. Et quand, si on leur demande d'imaginer un mouvement fantôme, ils savent le faire. Comme vous savez imaginer un mouvement avec votre bras intact, ou eux avec leur bras intact contralatéral, c'est pas la même activité. Donc, exécuter un mouvement, c'est vraiment autre chose. Un mouvement fantôme, c'est vraiment autre chose que imaginer un mouvement, fantôme ou pas. Donc, de là, on peut dire que ce bras existe et on peut envoyer des commandes motrices, comme on dit dans notre domaine, hein, du cortex vers ce membre.
Et alors, on envoie des commandes concrètement vers quoi, puisque le membre résiduel n'est pas le membre fantôme.
Exactement.
Pour autant, des commandes sont réellement transmises du cerveau jusqu'à quelque part.
Le membre résiduel. Et ce qu'on voit, du coup, et ça c'est un autre argument qui dit qu'il y a vraiment un envoi de commande, on voit une activité musculaire se développer au niveau du membre résiduel, bien sûr pas au niveau du membre fantôme, parce que là, il n'y a plus. Au niveau du membre résiduel, on peut mesurer, avec des électrodes, une activité musculaire qui est en lien avec le mouvement qu'ils sont en train d'exécuter. Parce que les mouvements qu'ils savent faire, ce n'est pas qu'un petit mouvement comme une petite contraction au niveau de l'index, flexion-extension. Ils savent faire, pour certains patients, jusqu'à 20 mouvements différents, qui ressemblent tout à fait aux mouvements qu'ils font avec leur main intacte. Et ces activités, on peut les enregistrer avec donc des électrodes et un équipement derrière, et on peut les analyser et voir que ces activités varient en fonction du mouvement qu'ils sont en train d'exécuter.
Et c'est justement parce qu'il y a cette double présence donc de l'activité cérébrale commande des mouvements et l'activité musculaire sur le membre résiduel que vous avez eu l'idée de ces nouvelles prothèses de bras. Alors pour bien comprendre leur intérêt, peut-être commencer par nous expliquer comment fonctionnent les prothèses que l'on trouve actuellement, aujourd'hui dans le commerce.
Oui. Actuellement, les prothèses sont basées sur une activité musculaire. Enfin, les mouvements de la prothèse sont contrôlés par le patient par une activité musculaire qu'il crée, qu'il produise volontairement, souvent, enfin, dans la plupart des cas, avec deux paires d'électrodes. Quand on parle du bras, on a une électrode souvent sur le biceps et une paire d'électrodes sur le triceps. Et en gros, il faut imaginer que la prothèse, c'est faire deux choses. C'est faire ouverture-fermeture de la main. Ça dissocie pas les doigts. On ne peut pas bouger le pouce dans d'autres sens qu'en opposition de tous les doigts, ouverture-fermeture. Et ensuite, ça peut tourner le poignet. Donc, on appelle ça pronation-supination. Donc, on le tourne simplement à droite ou à gauche, quoi. Ces deux mouvements-là sont contrôlés avec deux paires d'électrodes. Un sur le biceps, un sur le triceps. Et le patient, il doit apprendre, et ça prend dans certains cas longtemps, pour une fermeture de la main, de par exemple créer une petite activité avec les biceps sans activer pour autant le triceps. Déjà, ça, c'est pas facile parce que dans la vie quotidienne, ce qui se passe, c'est qu'on a l'habitude de faire des co-contractions si on veut pas bouger un membre. Donc, si on ne veut pas bouger le membre résiduel parce que c'est pas le but, c'est de bouger la main de la prothèse, c'est très difficile de faire juste une petite contraction avec le biceps sans activer le triceps. Donc, il faut qu'il apprenne. Pour ouvrir, c'est l'inverse, c'est le triceps et pas le biceps. Ensuite, pour la rotation du poignet, c'est très souvent une coactivation, c'est-à-dire une activation des deux muscles, à un seuil donné pour un sens de rotation et à un autre seuil pour l'autre sens de rotation. Donc c'est très artificiel. Et il y a des patients qui s'y habituent très vite, qui arrivent à bien intégrer la prothèse dans leur, on dit le schéma corporel, ils arrivent à le contrôler sans trop réfléchir. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de patients pour qui ça reste difficile. Et ils laissent souvent la prothèse au bout du moment dans le placard.
Et de ce fait, fonder un bras artificiel sur le mouvement des membres fantômes peut être une solution.
Oui, c'est ce qu'on a pensé il y a 3 ans. C'est un projet qui a démarré environ il y a 3 ans. Suite à la mise en commun des deux choses. Une chose, donc, les activités musculaires qui ont été enregistrées par cette équipe à Lyon au niveau du membre résiduel, et d'autre part, les connaissances qu'on a obtenues sur le contrôle actuel des prothèses. Et on s'est dit, si, au lieu d'utiliser les activités complètement artificielles biceps-triceps, si on peut utiliser des activités qui sont associées à des mouvements fantômes, qui sont naturels pour eux. Hein. Ils n'ont pas besoin de s'entraîner ni rien. Ils savent le faire, ils le font. Si on peut utiliser ces activités-là, bon, d'une part, le contrôle de la prothèse, même si la prothèse elle reste comme elle est, ce contrôle sera beaucoup plus facile. Et donc, les patients vont l'utiliser beaucoup plus souvent et beaucoup mieux. Mais deuxièmement, ça augmente potentiellement le degré de liberté de la prothèse. Ça veut dire qu'au lieu de pouvoir faire juste fermeture ou ouverture de la main, on peut peut-être faire spécifiquement une pince. On peut bouger les doigts séparément. On peut faire d'autres pinces, par exemple une pince de puissance, au lieu de faire seulement une pince qu'on appelle de précision, qui n'est pas si précis que ça dans le cas de ces prothèses. Donc ça c'était l'idée derrière, sachant que depuis mars ou avril 2015, il y a une main robotique prothétique sur le marché avec 15 degrés de liberté. Donc cette prothèse-là, potentiellement, on pourrait vraiment l'utiliser de façon intuitive.
Mais difficilement, puisque...
Actuellement, La main, elle est sur le marché, elle est remboursée par la sécurité sociale dans un certain nombre de cas. Le contrôle est encore très difficile. Ça se passe, par exemple, par smartphone, où on choisit, en appuyant sur un bouton, le mode du mouvement qu'on veut faire, pince, puissance, le doigt séparé, etc. Le patient doit appuyer sur un bouton. Et là, avec toujours ces deux activités, soit biceps, soit triceps, etc., et ben, la prothèse va le faire.
Donc, mais 15 degrés de liberté, mais de façon très artificielle.
C'est ça.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et même la façon dont fonctionne votre bras actionné par mouvement des membres fantômes, puisque ce bras existe désormais?
On commence à faire des tests et ça commence à marcher. Donc on est vraiment, on est confiant, on a réussi à appareiller des patients sans aucun entraînement ni rien. On a enregistré leurs activités musculaires pendant les mouvements fantômes, dans un premier temps. On va classifier les patrons d'activité qu'on mesure avec environ 12 paires d'électrodes pour l'instant, mais on va pouvoir diminuer sur le membre résiduel. Et ensuite, on les met aux commandes d'une main polyarticulés, et ils arrivent à faire parfois 7, 8, 9 mouvements sans aucune difficulté, parce que tout ce qu'ils font, c'est bouger leurs mains fantômes. Et ça, ils savent le faire de toute façon.
Donc la grosse différence avec les membres artificiels existants, c'est la possibilité de s'en servir sans une phase difficile d'apprentissage.
Oui, sans une phase difficile d'apprentissage et sans charge cognitive en permanence.
Donc aujourd'hui, vous dites quelques patients ont fait des essais. Quelle est la suite que vous allez donner à ce projet?
Oui, on va continuer les essais parce qu'il faut. Le but, c'est d'arriver à un kit de contrôle embarqué. Parce que pour l'instant, on ne peut pas montrer des photos là à la radio, mais c'est quelque chose. Hein. On a un grand ordinateur, on a des câbles partout, des électrodes qui sont très grandes et qui sont pour l'instant sur le membre résiduel. On ne peut même pas mettre la prothèse là-dessus. Hein. Quand je dis on a fait des tests, c'est avec une main qui est attachée sur la chaise. Hein. Donc on n'en est pas là de l'embarquer, mais la technologie d'aujourd'hui le permet tout à fait, donc on travaille là-dessus. Il faut accélérer le traitement de l'information, donc de l'analyse des activités musculaires. Ça pose pas un problème en principe, il faut le faire. Et surtout, il va falloir développer des électrodes qui permettent d'enregistrer les activités de façon fiable, durable, et qui ne gênent pas l'embouchure de la prothèse. Donc, sur toutes ces voies-là, on est en train de travailler. On a des collaborations avec des ingénieurs, avec des roboticiens, avec des cliniciens, des patients qui sont dans la boucle, qui sont très heureux de participer à ces enregistrements, plein d'espoir. La dernière chose, c'est que les mouvements fantômes sont lents. J'en ai pas encore parlé, mais sont lents. On pense savoir pourquoi, mais le fait est là, les mouvements sont lents et fatigants. Donc les patients, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de commande de la main polyarticulée, ils sont un peu fatigués. Et donc on a commencé à les entraîner. Moi, je viens d'un institut où on travaille beaucoup sur le mouvement du sportif. Entraînement, c'est un mot qu'on connaît bien. C'est un vrai mouvement, je vous l'ai dit au début. Pourquoi pas l'entraîner ? Donc, on a commencé, et ça, c'est quelque chose qui va durer un peu, à entraîner des patients. Et je peux vous dire que chez 4 patients, on a déjà des résultats, mais remarquables. Au bout d'un mois d'entraînement, ils arrivent à faire des mouvements beaucoup plus rapides, beaucoup plus dans un temps donné. Ils sont moins fatigués. Il y en a qui commencent à le faire en se baladant dehors, mais rapide, hein, pas simplement un petit mouvement lent.
Et donc, ce qui ouvre aussi des perspectives pour des prothèses de jambes, peut-être ?
Ah oui, effectivement, ça, c'est une application potentielle intéressante. Peut-être pas tellement pour le genou, qui est déjà très bien. La prothèse de genou est actuellement assez au point. Par contre, la cheville, ça pourrait être très intéressant. Donc, le membre fantôme chez l'amputé de jambe a l'air d'être pas tout à fait aussi développé. C'est peut-être pas nécessaire non plus, c'est pas par hasard. La plupart parmi eux, on n'en a pas encore vu autant qu'on a vu des patients d'amputés de bras, ils savent souvent bouger la cheville. Et ça serait très intéressant pour les marches et pour les marches en pente, parce que ça reste un problème.
Alors un autre exemple de projet développé actuellement pour cette question de la perte d'autonomie, c'est celui que vous portez, Damien Brulin, un projet qui vise à développer des micro-dispositifs utiles dans le domaine de la santé et du handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la philosophie générale de ce projet ?
On est clairement dans ce que présentait M. Sommer tout à l'heure, c'est qu'on est une équipe qui développe de la technologie, qui développe du capteur ou qui utilise du capteur. Et qui faisait du capteur et qui après disait à quoi bien servir ce que je viens de développer. Et finalement, il y a une quinzaine d'années, l'idée de certains membres de l'équipe était on va plutôt partir des besoins, et donc partir des besoins dans le thème de perte de l'autonomie, maintien à domicile de personnes, ou gestion automatique de l'habitat. C'est parti d'abord sur ça, c'est plus de partie de la domotique avant d'entrer dans la perte le maintien à domicile et la perte de l'autonomie. Et donc l'idée, c'était plus de dire je pars des besoins réellement de la personne que je veux surveiller ou du personnel médical qui va regarder la personne ou de la famille, des aidants. Et je vais essayer on va essayer de développer de la techno, mais aller jusqu'à une interface homme-machine ou proposer un service. Et donc on va plus proposer un produit, on va essayer de proposer un service à la fin. Donc nous, notre philosophie, c'est un peu toujours la évoluer, bien entendu, mais on essaie toujours de dire j'ai des besoins, quelles sont les données dont j'ai besoin pour pouvoir avoir des indicateurs sur ces besoins-là. Et on travaille beaucoup sur le mouvement, puisque c'est une chose qui s'observe assez facilement. Et on est parti sur des capteurs qui étaient juste disposés dans l'environnement, puis de plus en plus, on est arrivé sur des capteurs à la fois dans l'environnement, mais également portés par la personne. Tout ça pourquoi ? Donc avoir beaucoup des données, ces données nous donnent des indicateurs pour essayer d'avoir une modélisation du comportement habituel de la personne. Donc je mets habituel entre guillemets, mais on a plus ou moins tous un comportement habituel, c'est de plus en plus vrai avec l'âge. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce comportement habituel de la personne pour avoir quelque chose qui soit un peu spécifique à la personne et pas un modèle général qui marcherait sur l'ensemble de la population. Ça on sait très bien que c'est facile à avoir, mais ça va être dégradé suivant l'utilisation de la personne. Donc au mieux on colle à la personne, au mieux on aura des bons résultats et au mieux on pourra répondre à ses attentes, à ses besoins et à ses spécifications. Et donc pour cela, nous, une de nos contributions a été de dire je vais découper la journée en un certain nombre de tranches horaires. J'ai pas le même comportement le matin, le midi et le soir, ou même en début d'après-midi qu'en fin d'après-midi, puis la nuit, et avoir un modèle de comportement pour chacune de ces tranches horaires. Donc à chaque fois, c'est à peu près cette philosophie-là qu'on a. Et derrière, une fois qu'on a toutes ces données, donc au début on était plus technologue, mais on s'est pas arrêté là, maintenant on a les données, donc il faut les traiter, Donc on va faire ça un peu en deux temps. On va faire une première phase de détection. On va essayer de voir sur les indicateurs que j'ai, est-ce que j'ai des choses intéressantes, est-ce que j'ai des dépassements de seuil, est-ce que j'ai des plages ou des pourcentages de temps de présence qui sont un peu anormaux par rapport à ce qu'elle fait normalement habituellement. Donc je vais essayer de voir des dérives par rapport à son comportement. Et ça, c'est mieux qu'une phase de détection. Je remonte une sorte d'alarme. On dit juste, par exemple, un rouge, vert, orange. Et après, derrière, vient une phase de décision. En plus, là, va intervenir soit le personnel médical ou la famille. C'est, nous, on va essayer de l'aider à cette prise de décision. C'est est-ce que j'interviens réellement ou pas. Donc, on a un peu ces deux couches, détection et décision, où là, dans la décision, on essaye de prendre en compte un peu le contexte dans lequel évolue la personne, le passif de la personne, l'historique des alertes qu'on a eues. Donc, toutes ces choses-là pour vraiment rester, personnaliser vraiment le dispositif à la personne.
Et donc, pour se représenter concrètement ce dispositif, on a la personne en situation de perte d'autonomie, une personne âgée, par exemple, qui est équipée d'un certain nombre de capteurs, son environnement également. Ça fait remonter des données sur une centrale et que ces données sont analysées, transmises aux personnes qui, éventuellement, peuvent intervenir pour venir en aide à cette personne.
Voilà, c'est ça, exactement.
Vous utilisez des capteurs du commerce. Votre travail de recherche, l'innovation, elle se situe à quel niveau ?
Alors, c'est d'abord situé sur les capteurs, puisque c'était le but principal de l'équipe au départ. Donc, soit on a développé nos propres capteurs. Je rappelle qu'on s'intéresse vraiment au mouvement. Donc, mouvement
d'appareil. Détection de chute, par exemple ?
La chute, rien que le déplacement dans la pièce, comment elle marche, sa position. Donc c'est vraiment la marche ou le déplacement de la personne, c'est le meilleur indicateur sur son activité au quotidien, au final.
Est-ce qu'elle est restée dans son lit ce matin ou est-ce qu'elle est allée prendre son petit déjeuner, voilà, comme d'habitude?
Voilà, et donc au départ, soit on a développé des capteurs de type détecteur de présence. Donc on a essayé de faire un peu mieux que les capteurs pyroélectriques qui sont disponibles dans le marché, qui sont dits détecteurs de présence puisqu'ils sont en réalité des détecteurs de mouvement. C'est-à-dire que si vous bougez pas, votre capteur... il ne vous voit plus. C'est typiquement ce qui peut vous arriver dans les toilettes de plus en plus maintenant, c'est que si vous ne bougez pas pendant un certain moment, la lumière va s'éteindre. Okay. Donc nous, on a essayé d'aller un peu au-delà de ça et de dire, voilà, je veux vraiment détecter la présence. Donc on est plutôt parti sur des capteurs qui, eux, vont voir toujours une source de chaleur, mais qui sont très sensibles. Donc là c'est l'aspect développement capteur, il était là. Donc sinon, on va aller chercher des capteurs qui existent sur étagère du commerce et on va essayer de les adapter au maximum à une utilisation santé, puisque à la base, ils ne sont pas... sont plus pour une utilisation, on va dire, intrusion ou vigilance dans une maison. Donc eux, ils ont juste besoin de voir un mouvement et puis c'est tout. Nous, on va aller un peu plus fin dans l'activité, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir des mouvements dans le lit, voir comment, si elle bouge dans le lit beaucoup, c'est une activité nocturne. Et puis pour le mouvement, typiquement les accéléromètres, magnétomètres, gyromètres, pour voir là des déplacements ou des accélérations. Pour la chute, c'est typiquement une accélération brutale verticale. Donc on essaye de voir ça, mais ça peut aussi nous être utile pour la marche, les accéléromètres. Donc ça, c'était la partie capteur. Puis comme on l'a dit, soit on mettait dans l'environnement, donc là, on n'a pas trop de contraintes, à part le fait d'essayer de ne pas être trop visible pour la personne et pas être trop intrusif dans sa vie de tous les jours. Là, une personne, elle n'a pas envie d'avoir un capteur qui la voit tout le temps. Et j'avais même eu des remarques en disant même un capteur de mouvement était vu comme une caméra, et en fait, on expliquait à la personne que ce n'est pas une caméra. Mais comme on essaie de plus en plus d'être porté, donc se pose des problèmes d'intégration. Je parlais d'un projet par la suite qui est un capteur qui est embarqué dans une semaine.
On va y venir effectivement juste après.
Et donc là, il y a des contraintes en termes pour nous de communication, d'autonomie énergétique et des contraintes dans l'espace que l'on a pour pouvoir loger les capteurs dont on a besoin, pouvoir un peu avoir un peu de traitement local sur le capteur ou sur le microprocesseur. Et envoyer ça après à une unité centrale qui, elle, fera le plus gros traitement. Et à la fin du fin, on développe aussi donc, l'interface aux machines, qui peut être juste une interface web ou quelque chose développé dans un langage informatique qui sont largement utilisés sur les interfaces aux machines, pour proposer à la personne, et suivant le type de personne qui va ouvrir ou se connecter à l'interface, des informations et des possibilités d'intervention derrière.
Alors, ce dispositif, vous l'avez testé de manière extrêmement concrète dans le cadre du projet HomeCare, dans un EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous décrire le contexte dans lequel ce projet a eu lieu et avec quel objectif et quel résultat ?
Donc, le contexte de HomeCare était suite à un premier projet qui était vraiment de la détection et du suivi de personnes à domicile, on va dire, avec des simples capteurs de présence mis dans l'environnement. Donc déjà ça nous donnait pas mal d'informations. HomeCare a rajouté ce capteur porté par la personne, qui était un petit patch qui était collé dans le dos de la personne qui venait de besoins exprimés par une unité Alzheimer dans un EHPAD à Caussade. qui voulait avoir des informations en plus de ces observations qu'elle a habituellement visuelles avec les infirmières ou le personnel de santé. Donc on avait équipé l'unité avec des capteurs à la fois de mouvement donc dans sa chambre, pour avoir, avec 8 capteurs de mouvement, pour avoir un découpage assez fin de l'endroit où elle pouvait se situer dans la chambre, plus un capteur au-dessus du lit pour l'activité nocturne dont je vous ai parlé tout à l'heure, et des balises radio qui étaient un peu disposées dans l'unité pour pouvoir la localiser à tout moment. Donc l'objectif pour les médecins, c'était de savoir où était la personne déjà, est-ce qu'elle était tombée, et nous, à l'aide de tout ça, on a pu aussi savoir la distance qu'elle parcourait chaque jour et à peu près enfin une idée de la vitesse de déplacement qu'elle avait. Et donc à partir de là, on pouvait fournir d'autres informations que n'avait pas par exemple le personnel médical. Une personne Alzheimer va déambuler énormément dans l'unité. Ça, ils le voient très bien, ils le savent qu'elle déambule. Par contre, quand on leur annonce et quantifie qu'elle a fait 9 km en une journée, c'est une donnée qu'ils n'avaient pas. Et donc ils ont pu adapter l'aspect nutritionnel. Donc vous voyez l'apport que peut avoir ces petites informations sur une décision médicale finalement. Et donc là, on était vraiment dans le réel besoin exprimé par le personnel médical, les psychologues, etc., dans cette unité-là. Alors, ça n'a pas débouché sur quelque chose sur le marché, comme on parlait tout à l'heure, mais je pense que vous y reviendrez juste après. Mais on a bon espoir de continuer et d'amener ça vers le domicile, où là, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer ou à modéliser, puisque un EHPAD, c'est surveillé, on a des retours directs d'une personne médicale, c'est-à-dire que si on dit qu'il y a une chute, on peut avoir une confirmation tout de suite et ajuster un peu nos algorithmes. À domicile, c'est un peu plus difficile de demander à la personne de confirmer derrière ou de demander à la famille de confirmer.
En tout cas, la réussite du projet fait qu'aujourd'hui, il se poursuit sous la forme d'un autre projet qui est le projet Respect, financé par l'ANR. Lui, il est tourné non pas vers les malades d'Alzheimer, mais vers les personnes dites fragiles. Donc directement dans le cadre de la problématique du maintien de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez décrire ce projet ?
Oui, donc avec HomeCare, on était plus donc, sur des personnes dépendantes. Là, on va plutôt sur les personnes fragiles. Donc, deux, trois mots sur les personnes fragiles. Une personne fragile, c'est un état qui est entre l'état robuste et l'état de dépendance. Et il y a quelques indicateurs, dont la vitesse de déplacement et la perte de poids, qui peuvent nous indiquer est-ce que la personne est en état de fragilité, pré-fragilité ou commence à aller vers la dépendance. Et l'intérêt de s'intéresser à la fragilité pour les médecins, pour les gériatres, c'est que c'est un état qui est réversible. C'est-à-dire que si, avec certaines recommandations nutritionnelles ou d'activité au quotidien, on peut très bien revenir vers un état robuste, au moins retarder la perte d'autonomie qu'on peut avoir habituellement. Donc l'idée derrière ça, c'est que les médecins voient la personne une première fois, détectent via les médecins généralistes que la personne est fragile ou potentiellement fragile, lui font passer toute une série d'examens dans la journée, puis font des recommandations à la fin, disant il faudrait tant d'activités dans la semaine, dans la journée, ou adapter votre nutrition, et les revoit 3 mois après, sauf qu'entre ces périodes de 3 mois, ils sont totalement aveugles sur le fait est-ce que la personne a réellement suivi les recommandations. Donc l'expression du besoin était là, c'est est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui nous permette de voir en continu, est-ce que la personne a vraiment une activité au quotidien ou à la semaine. Donc nous, on a proposé de réutiliser ce qu'on avait déjà fait sur HomeCare, le patch, et de cette fois-ci le mettre dans une semelle, avec cette fois donc la contrainte de la place qu'il faut mettre. Il ne faut pas non plus gêner la personne qu'elle continue à marcher comme normalement. Donc on avait 2 mm d'épaisseur pour pouvoir mettre l'ensemble des choses dont on avait besoin, donc capteurs, microprocesseurs et systèmes de communication pour pouvoir faire remonter les données. Et actuellement, donc le projet technique est terminé, c'est-à-dire que là, on est en train de tester l'acceptabilité du système sur les personnes. Donc c'est là où M. Sommer disait qu'il faut l'interdisciplinarité et les SHS sont intéressés. Donc les SHS, dans le projet Respect, n'étaient pas dans le cas, mais sont dans Respect parce que eux, ça les intéresse de voir cet aspect acceptabilité, utilisation de notre système, pour voir est-ce que la personne utilise bien le système, est-ce qu'elle l'utilise correctement et est-ce qu'elle finit par oublier finalement la semelle qui est dans la chaussure.
Alors voilà pour ces deux exemples très concrets. D'une façon générale, Pascal Sommer, quel bilan faites-vous de ces 4 ou 5 années de projet autour de la perte d'autonomie ?
Alors il y a... Bien sûr, on est très contents. Les choses ont beaucoup progressé. Les gens ont discuté entre eux. Ça, c'est bien. Des avancées conceptuelles de mise en relation de différentes sciences sont avancées, et il y a des applications qui commencent à poindre, sur lesquelles, dans ces applications qui étaient faites un petit peu dans chaque partie, dans des domaines un peu segmentés, sont discutées maintenant, réfléchies et proposées de manière complètement intégrative. L'exemple qui vient d'être donné par Damien Brulin, on part d'une technologie et on réfléchit à l'intégrer, l'accepter, la suivre, voir comment les personnes l'acquièrent, se l'approprient. Et ça, c'est très important. Parce qu'encore une fois, la question n'est pas forcément de mettre sur le marché. La question, c'est que ça soit accepté. Et qu'il y ait des enseignants, il y a que des personnes qui puissent aider, qui puissent entourer, que les aidants puissent le comprendre. Et tout ceci, maintenant, grâce à ce genre d'approche, eh bien, a progressé. Alors, il faut dire que c'est un mouvement qui est un petit peu... Donc, le CNRS est à ses actions. Dans le même temps, Avissant aussi à ses actions. Dans le même temps, juste après le bilan qui a été fait pour la question du handicap, il y a eu cette fondation de recherche appliquée sur le handicap qui a été créée, qui est vraiment dans la recherche beaucoup plus applicative et qui fait le lien avec les innovations du CNRS. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui en France ont été mobilisés et qui vont dans le bon sens. Alors, est-ce que ceci se traduit directement sur des applications sur le marché ? En tout cas, ça les accélère. Ça les accélère très clairement. Il y a des propositions qui sont faites, ne serait-ce qu'on a parlé des smartphones. Les smartphones, on les voit à toutes les échelles. Eh bien, on rend les smartphones et leur utilisation encore plus intelligentes. Et ça, c'est bien.
Vous avez posé la question de la mise sur le marché. Est-ce que dans le cas de cette prothèse de bras, Josina De Graaf, et de ces micro-dispositifs, Damien Brulin, il y a des projets en ce sens ? Josina De Graaf, d'abord.
On y pense. C'est un peu tôt là, mais oui, le but c'est bien sûr de l'intégrer dans les prothèses dans les années qui suivent. Maintenant, on n'a pas été formés pour ça, nous, donc il va falloir de l'aide. Il faut prendre le problème, enfin pas qu'en France je pense, mais le problème est quand même, on ne peut pas contacter les industries tant qu'on n'a pas, on ne sait pas nous fait connaître comme inventeur de ces choses-là. Et donc il faut attendre. Et le plus qu'on attend, de moins qu'on a le retour aussi sur ce qu'il faut faire. Donc là, il nous faut un peu d'aide. Mais oui, bien sûr.
Et Damien Brulin, vous très concrètement, avec vos micro-dispositifs, sur cette question de mise sur le marché potentiel ?
Alors, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. C'est que nous, on n'a pas été démarcher les entreprises pour après dire voilà ce qu'on sait faire. Par contre, on se rend compte depuis quelques années, et puis depuis le lancement de la Silver Economy, qu'il y a beaucoup de petites start-up ou d'entreprises qui commencent à réagir ou se mettre sur ce marché-là. Et qui ont vu les travaux qu'on avait faits. Donc, je vais citer l'exemple d'une start-up qui s'appelle Télégraphique, qui s'est rapprochée de nous parce qu'elle a développé un système sur lequel on avait travaillé il y a une dizaine d'années, et qui commence à l'adapter, mais là, cette fois-ci, sur le commerce, sur le maintien à domicile de personnes, avec des capteurs de mouvement disposés dans l'environnement. Donc, ça arrive, oui, mais nous, c'est vrai que notre travail, c'est pas réellement d'aller sur le marché directement. Essayer de valoriser nos travaux, oui. Et voilà, comme on l'a dit, on a besoin d'aide aussi pour le faire.
Alors cette aide, Pascal Sommer, comment le CNRS l'apporte-t-elle concrètement ? Comment elle adresse cette question du transfert de ces innovations visant à accompagner la perte d'autonomie ?
Alors ça, c'est une vaste question auxquelles je ne vais pas répondre tout de suite, comme ça. Par contre, on peut réfléchir à des pistes et des éléments sur des choses qui sont faites concrètement. Il faut mettre, effectivement, donc il y a toujours, quand on veut innover. Et il y a toujours cette approche où les chercheurs vont faire des propositions et la société va faire des demandes. Donc il faut faire les deux, le lien entre les deux. Le premier point, c'est de créer des espaces de dialogue, des espaces de discussion. Donc ça, c'est fait. C'est fait à travers ce genre de programme où on va de plus en plus avec une responsabilisation des deux côtés. Des chercheurs qui travaillent avec des patients, des aidants, des personnes qui sont vraiment intéressés, impliqués, et qui prennent cette responsabilité aussi. Et de l'autre côté, on a des associations qui deviennent de plus en plus intelligentes et qui posent des bonnes questions. Donc là, il y a une aide à l'intelligence. Et moi, j'ai vu l'évolution. Je fais partir des chercheurs qui ont une certaine expérience, c'est-à-dire un certain âge. Et j'ai vu l'évolution en fonction de mon âge. Donc ça, c'est vraiment intéressant. De l'autre côté, les industriels, donc il y a deux grandes approches. Il y a les industriels qui... Donc les grosses sociétés qui ont déjà pignon sur rue, qui avec des réseaux, et puis les start-up. Il y a en France une activité de création de start-up qui est très forte. Et des start-up issues du CNRS, beaucoup. De l'université, beaucoup. Donc c'est en fait des doctorants qui, avec leur directeur qui lancent ce genre de projet. Donc ça ne débouche pas toujours, mais encore une fois, c'est des actions qui sont aidées, qui font progresser les choses. Alors il y a différents niveaux, bien sûr. Hein, il y a la détection de fragilité, on est au début. Donc. Il y a le développement de l'outil, donc on est au milieu. Et il y a l'acceptation. Et là, on est à la fin, mais aussi au début. Et puis après, il y a le suivi, c'est-à-dire dans le contexte social, sociétal, comment ça se passe. Donc il y a différents éléments où, à chaque fois, un projet, même s'il n'aboutit pas, va faire progresser un élément. Et ça, c'est très important. Et ça, il y a, je dirais, depuis quelques années, une évolution majeure là-dessus. Alors il y a un outil aussi, enfin, il y a plusieurs outils de valorisation qui existent en France. Dont un outil, enfin, donc des aides des universités, des aides du CNRS, des accélérations de transfert qui existent. C'est un peu compliqué à mettre au point, mais ces outils existent. Alors là-dessus, juste je vais finir, donc dans le cadre d'Avisan, et notamment pour l'autonomie, et notamment pour le développement des dispositifs médicaux, il y a un groupe de travail et il y a des lieux de discussion, une espèce de meeting pour les entreprises et chercheurs qui ont été développés depuis un an sur cette question d'autonomie.
Et puis, sur cette question d'autonomie, il y a les nouveaux projets. Vous êtes le porteur d'un nouveau défi, le défi Auton. Sur quoi portera-t-il ?
Alors, le défi Auton fait suite au défi sur la déficience perceptive en montant encore le niveau d'intégration. C'est-à-dire que d'un côté, on s'occupe de ce qui est perception, donc les problèmes sur les cinq sens, qu'est-ce qu'on peut faire, vision, audition, tout. Mais d'une manière intégrée, c'est-à-dire, on continue bien sûr sur les cinq sens, mais quelqu'un qui a un problème d'audition, est-ce qu'il a aussi un problème tactile ? Est-ce qu'il a aussi un problème d'olfaction ? Et est-ce que de manière générale, si on s'occupe de ces questions, on peut améliorer les choses ? Je prends un exemple, des personnes qui ont un Parkinson, avec une stimulation et une rééducation, on se rend compte qu'en faisant une stimulation par l'olfaction, on a une amélioration. C'est quand même important et c'est bien plus efficace qu'un médicament, souvent. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la personne qui est en situation médicale, médicalisée, et qui revient chez elle. Souvent, il y a des essais, il y a des entraînements, des procédures qui sont faites et qui sont complètement abandonnées quand la personne revient chez elle. Et du coup, on a une accélération de la perte d'autonomie. Donc là, c'est vraiment une question qu'on veut poser, qui est plus que technologique, qui est aussi comportementale, qui est quel dialogue, quel discours, quelle aide il faut avoir. Et le troisième point qui a été évoqué à plusieurs reprises, donc la personne maintenant, elle est chez elle, elle est toute seule, elle n'a pas d'aide, ou peu. Quels sont les outils techniques et quels sont les outils aussi d'aide intellectuelle, j'allais dire sur son envie de faire des choses. Je vais prendre un exemple. Si on développe un petit smartphone et puis que la personne n'arrive pas à appuyer dessus parce que sa sensation tactile est faible, est-ce qu'il faut passer par un outil technique qui engage la voix? Ou est-ce qu'il faut avoir des jeux qui correspondent à l'éducation de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle a appris quand elle avait 20 ans, c'est-à-dire ça pouvait être il y a 60 ans. Quels étaient les jeux il y a 60 ans et comment ces jeux-là peuvent être traduits sur un smartphone? Ça, on ne fait pas trop actuellement. Ça, il faut le faire. Voilà.
Alors s'il avait été sur ce plateau, Jean Bousquet nous aurait parlé du projet MACVIA en Languedoc-Roussillon, qui vise à réduire de plus de 30% les hospitalisations non programmées pour les maladies chroniques chez les sujets de plus de 65 ans et qui vise également à augmenter l'espérance de vie en bonne santé de 2 ans. Alors comment, non pas en accompagnant les situations de perte d'autonomie, mais en tentant de les prévenir, notamment par des actions d'information et de sensibilisation des populations concernées. Pascal Sommer, est-ce que la prévention des situations de perte d'autonomie entre également dans le champ des travaux que vous portez?
Oui, absolument. Donc je ne peux pas parler à la place de Jean Bousquet, qui fait un remarquable travail sur ces maladies chroniques. Mais la question qui est posée à tout le monde, à tout âge, c'est je vais bien et est-ce que je suis sûr que je vais bien? C'est-à-dire, je reprends l'exemple de la main. Beaucoup de gens ont une petite dégénérescence, vieillissement, on va appeler ça comme ça, vieillissement, et sentent moins bien les choses. Du bout des doigts, ils sentent moins bien. Voilà. Eh bien, est-ce qu'on peut le mesurer ? L'indication de mesure actuellement, c'est prendre une feuille de papier, de voir si on la serre, et quand on la serre, voir si elle va tomber ou pas. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. On peut améliorer ça. On peut améliorer ça avec des petits outils techniques. Et donc là, derrière ce simple geste de ne pas bien sentir ce qu'il y a au bout des doigts, qui peut venir d'une maladie professionnelle, l'utilisation de la souris, par exemple, trop prolongée, ou qui peut venir de quelque chose de plus important, d'un problème au niveau du cerveau, qui peut venir après un traitement contre le cancer, par exemple. Et ceci va se traduire au niveau de la main, mais au niveau de plein d'autres choses, notamment du pied, notamment du mouvement. Est-ce qu'on est capable, très rapidement, dès le départ, de définir un problème de sensibilité, de différence, de perte ? Et ça, c'est à tous les niveaux, que ce soit pour la respiration, pour le problème cardiaque, pour les problèmes alimentaires, pour les problèmes de comportement, pour les problèmes d'autonomie, de fonctionnalité. Est-ce qu'on est capable de le détecter le plus tôt possible ? Le plus tôt on le détecte, le mieux on peut avoir quelque chose d'adapté, qui peut être une réponse non pharmaceutique, et c'est bien, avant de passer à des réponses soit pharmacologiques, soit avec des technologies beaucoup plus poussées. Donc cette transition-là, elle est très importante. Cette transition doit faire la différence entre le vieillissement, tout le monde vieillit, voilà. On perd un peu de vision, on perd un peu d'audition, pas très grave. Mais par contre, des fois, on en perd un beaucoup plus. Et là, il faut savoir si c'est grave ou pas.
Est-ce que l'innovation, pour finir, va nous libérer de la perte d'autonomie ?
Alors, je vais prendre le modèle de la machine à laver. Quand la machine à laver dans les années 60 a été inventée, ça a été une révolution pour les foyers. Voilà. Donc, évidemment, il fallait continuer à faire du linge, à laver le linge. Mais ça a beaucoup aidé les gens. Et alors, je suis pas du tout spécialiste, mais peut-être que ça a participé à la libération de la femme. Mais ça, c'est un autre débat. Par contre, ce que l'on peut imaginer très clairement, c'est que avoir des outils adaptés pour une personne seule, toute seule, dans son appartement, avec pas beaucoup de moyens. Je pense que ça peut être mieux pour elle de pouvoir communiquer avec le monde, de pouvoir avoir des points de contact, de pouvoir rencontrer d'autres personnes.
Damien Brulin, vous voulez ajouter quelque chose sur...
Moi, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, justement sur le fait d'essayer de voir les besoins, sur comment la personne peut interagir avec sa maison. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent se faire dessus ? Il commence à y avoir des choses. Nous, on travaille avec un autre laboratoire... qui est l'hérite, qui est plus informatique, et des SHS, sur on fait venir des gens dans la maison intelligente qu'on a à l'IT à Blagnac, et on leur dit, bah voilà, vous avez la maison qui est à votre disposition, vous pouvez interagir avec elle, soit avec les boutons qui sont classiquement mis sur les murs, soit avec une interface graphique, soit avec la voix. Et on les laisse pendant 10 minutes comme ça, ils viennent de se lever, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous levez ? Et donc l'idée derrière ça, c'est de voir justement les habitudes et faire des recommandations derrière, puisque dans le projet, je finis vite, il y a une mutuelle qui est dedans et qui est intéressée justement sur ces aspects de prévention.
Josina De Graaf, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, oui, je voulais, sur cette perte d'autonomie, est-ce qu'on peut l'éviter ? En ce qui concerne les amputés, on n'est pas encore dans Star Wars où on met juste un bras et tout va bien, on ne le voit plus. Donc la personne, pour l'instant, reste à amputer. Tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer sa vie quotidienne, pour l'instant, et aider à l'intégration, l'acceptation de cet outil, finalement.
Et c'est déjà beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Damien Brulin, Josina De Graaf, Pascal Sommer, merci de votre participation à cette table ronde. Perte d'autonomie, comment y remédier ? Un rendez-vous qui, je vous le rappelle, que vous pouvez retrouver en intégralité sur la Wikiradio du CNRS, wikiradio.cnrs.fr, où vous pouvez le podcaster. Merci de votre attention. Au revoir.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.